Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le scandale, ça ne compte pas, s'étrangle un personnage du désert de l'amour, roman signé François Mauriac. Bien sûr que si, le scandale, ça compte chez ces gens-là. Rire à table n'est pas non plus très bien considéré, mais il ne doit guère y avoir d'occasion de rire, à table ou ailleurs, dans cette famille de la banlieue bordelaise. Quand une atmosphère familiale est lourde, le monde extérieur représente une idée de la liberté, en l'occurrence, dans cette fiction, pour le père comme pour le fils. Entre deux univers, le tram. Ne pas manquer un certain voyage dans le tram de 6 heures. Et puis ce personnage de Maria, une courtisane? Non, il ne faut pas croire le monde. J'ai reçu ses confidences. Elle se confiait à moi avec une humilité extraordinaire. Simplement, elle a été perdue par une indolence inguérissable. Guérir, donc, le désert de l'amour, et rendre heureux, qui donc? Le docteur? Le fils du docteur? Première diffusion du désert de l'amour, le 6 mars 1957, sur la chaîne nationale.
La radiodiffusion et télévision française présente Le désert de l'amour. Adaptation radiophonique par Michel Dominique, du roman de François Mauriac de l'Académie française. Hubert Prélier interprétera le rôle du docteur Courrèges. Henriette Barrault de la Comédie française, Lucie. Gabriel Fontan, Madame Courrèges. Jean Muselli, Raymond. Marcel Tassancourt, Madeleine Basque. Daniel Lecourtois, Gaston Basque. Roger Coggio, Papillon. Jacques Ling, La Rousselle. Avec Catherine Sellers, Maria. Et Jean-Roger Cossimon, le narrateur. Réalisation Albert Riera.
Les pupitres de l'étude claquaient chaque soir lorsque la grosse horloge de Bordeaux commençait de sonner lentement ses 6 heures, et les élèves s'égaillaient dans les rues grises où il n'avait même pas assez plu pour que la poussière fût rabattue. C'était alors le moment où le jeune Raymond Courrèges prenait son tramway, qui, du collège où il errait en enfant sale dans les couloirs, le ramenait vers la maison de famille, retirée dans la banlieue bordelaise. Tramway plein d'ouvriers, et qui n'était pas assez éclairé pour qu'il pût achever de lire Aphrodite, mais dont le long voyage de retour, parmi des êtres indifférents, sans regard, apportait une sorte de délivrance. Cependant, après Talence, il fallait descendre, et l'enfant quittait presque à regret ce feu de Bengale mouvant, éclairant à son passage les ifs et les charmilles des propriétés, avant de disparaître au loin.
Bonsoir.
Combien de fois faudra-t-il te dire de racler tes semelles au décrottoir? Et j'espère en outre que tu ne comptes pas aller à table avec ces mains-là.
Bon, maman, je vais.
Vous savez ce que dit Paul. Il ne faut pas énerver inutilement le petit.
Si vous écoutez son père, faible comme il est, ça ferait un joli coco.
Oh, voyons, Madeleine, c'est tout de même ton frère.
Mais justement... T'as plaît de la famille. Ah, voilà Gaston.
Mais je n'entends rien, moi.
Si, le voilà.
Vous avez entendu des pas, vous, maman?
Non, ma foi, non.
Elle ne dit plus que pour son mari. C'est comme si on n'existait pas.
J'en ai pris mon parti, Lucie. Les enfants sont tous les mêmes. Ah, je vais faire sonner la cloche pour le dîner.
Ah, voilà les petites.
Et toi, Raymond, pardonnable, voyons.
Allons, allons, voulez-vous bien vous mettre à table? Oh, mais on ne peut rien faire de ces enfants ce soir. Brigitte, ma chérie, mets-toi là. Allons, venez vite. Ah, Gaston, vous arrivez bien. Je ne sais pas ce qu'ont vos filles ce soir, mais on ne peut pas les tenir.
À table, tout de suite.
Naturellement, papa n'est pas là.
C'est un principe chez lui. Il ne peut pas se mettre à table avec tout le monde.
Quand il n'est pas à l'hôpital, il est avec ses malades. Et quand il est à la maison, c'est pour se plonger dans ses revues médicales. Ah. Ah, ça n'est pas drôle d'avoir un fils docteur.
Si vous croyez que c'est plus amusant pour sa femme...
Te vautre pas comme ça.
Maman.
Les mains sur la table. Non, les mains, pas les coudes.
Bon, voyons, Paul, tu n'as donc pas entendu sonner pour arriver au beau milieu du repas. Avec un service aussi décousu, il n'y a pas moyen de garder un domestique.
Je lisais. Je n'ai pas entendu.
Comme toujours, quoi.
N'essuie pas ton assiette.
Maman.
N'essuie donc pas de servir de ton couteau.
Ah, j'ai retenu travaillotte pour la semaine prochaine.
C'est toujours toi qui prends travaillotte, maman.
Eh bien, fais venir Maria au nez cassé.
Maria au nez cassé travaille beaucoup plus lentement. Et puis, elle me fait payer son tramway.
Je t'avertis. Tu n'auras pas d'autre pain.
Et papa.
Laissez ces pauvres petites tranquilles, Gaston. Tiens-toi bien, ma chérie. Là, là, là. Mais tu as assez bu comme ça.
Qu'on ne leur adresse pas la parole. Si on leur adresse la parole, c'est elles qui seront punies. Que tout le monde se tienne pour averti.
Oui, mon lieutenant.
N'aime pas du tout ce genre de plaisanterie. Tiens-toi le poire dit.
Lucie, je sais pour qui sont les tentures blanches que vous avez vues à l'église.
Ah.
C'est pour le petit garçon de Maria Cross. Il est mort d'une méningite. Il paraît qu'elle a demandé une première classe.
Quel manque de tact. Il est malheureux que le curé n'ait pas rappelé à la pudeur cette femme entretenue, au vu et au su de toute la ville, qui étale un luxe insolent. Chevaux, voitures et tout ce qui s'ensuit.
Ne jugeons pas, Lucie. Ce n'est pas nous qu'elle offense.
Et le scandale, alors, ça ne compte pas. Une telle femme me fait horreur. Cette propriété, où a si longtemps vécu ma vieille amie, Madame Bouffard, la belle-mère de Victor Laroussel, occupée maintenant par une drôlesse. Ça alors. Ah, chaque fois que je passe devant le portail, ça me fend le cœur.
Il n'y a ce soir dans cette maison qu'une mère au chevet de son enfant mort.
La justice de Dieu. À ça, Paul. C'est de la maladie. Et toi, Raymond, va t'en rire dehors. Tu reviendras lorsque tu seras calmé. Bon, voilà des façons.
Rassure-toi, je sors.
Elle ne mord pas dans ton pain. Mais laisse cet os.
Grand-mère, tu entends la cloche?
Oui, ma chérie. C'est pour le petit garçon qui est mort.
Bonjour, mon petit.
Bonjour, maman.
Tu as bien dormi?
Oui, merci.
Ton père n'est pas descendu?
Non.
Ah, ben, il est en retard ce matin. J'ai des lettres à lui donner pour la poste.
Ah bon?
Ah, il vient, j'entends la porte de sa chambre. Ben, je vais verser son café. Comment tu as ton chapeau de forme et ta redingote?
Mais, tu le vois bien.
Tu vas à un mariage? À un enterrement?
Oui.
Qui est mort?
Quelqu'un que tu ne connais pas, Lucie.
Dis-le-moi tout de même.
Le petit Cross.
Le fils de Maria Cross? Tu la connais, tu ne me l'avais pas dit. Tu ne me dis rien. Pourtant, depuis que nous parlons à table de cette drôlesse...
Après 25 ans, tu n'as pas encore compris que je parle de mes clients le moins possible?
Eh bien non, je ne comprends pas. Je m'obstine à trouver stupéfiant d'apprendre au hasard de mes visites que telle dame est soignée par le docteur Courrèges. C'est bien agréable pour moi lorsque les gens s'étonnent. Comment, vous ne le saviez pas? Je suis obligée de répondre que tu n'as aucune confiance en moi, que tu ne me dis jamais rien. C'était le petit que tu soignais? De quoi est-il mort? Oh, tu peux bien me le dire à moi, je ne répète rien. Et d'ailleurs, c'est sans importance pour des gens comme ça.
Dépêche-toi, Raymond. Cette heure ont sonné il y a longtemps et Firmin attend avec le cabriolet.
Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Tout de suite, tu te hérisses.
Au revoir, maman.
On est folle.
Ce fut un soir comme un autre soir, près d'un an après la mort du petit Cross, à la fin janvier, alors que déjà l'hiver déclinait, que Raymond, dans le tram d'ouvrier, s'étonna de voir en face de lui cette femme. Il aimait chaque soir être confondu dans cette cargaison humaine. Il se persuadait d'être un émigrant. Il était assis parmi les voyageurs de l'entrepont, et le vaisseau fendait les ténèbres. Les arbres étaient des coraux, les passants et les voitures, le peuple obscur des grandes profondeurs. Mais ce soir-là, en face de lui, il y avait cette femme. Son front était pur, baigné d'une lumière d'intelligence, et rien dans ses yeux qui ne ressemblât à de la curiosité, à de la moquerie, à du mépris. Elle était belle, oui, belle et mystérieuse, avec un regard qu'on ne pouvait oublier.
M'inquiète. Vous êtes bien heureuse de ne pas vous faire de mauvais sang. J'envie des natures comme les vôtres.
Paul est un peu surmené. Il travaille trop, c'est certain. Mais il a un fond de santé qui me rassure.
La preuve qu'il se sait malade, c'est qu'hier je l'ai surpris devant une glace. Lui qui ne s'est jamais occupé de son physique, il observait de tout près sa figure. Il promenait ses doigts. On aurait dit qu'il voulait déplisser son front, ses tempes. Il a ouvert la bouche, il a même regardé ses dents.
Il n'est pas malade, mais c'est vrai qu'il souffre.
Oh, Il n'y a pas comme les médecins pour ne pas se soigner.
Bonsoir.
Bonsoir, Paul.
Bonsoir, mon petit.
Tu as bien mauvaise mine ce soir.
Non, je n'ai rien. Où sont mes revues ?
Ici, sur la petite table.
Ah oui. Ne lis pas, nous allons passer à table. Il y a une côtelette pour toi.
Mais c'est vendredi, pourquoi une côtelette ?
Il faut un régime fortifiant.
Qu'en sais-tu ?
Pourquoi ne consultes-tu pas du lac ? Un médecin ne peut pas se soigner tout seul.
Mais enfin, ma pauvre Lucie, pourquoi veux-tu que je sois malade ?
Tu ne te vois pas ? Tu vas faire peur. Puis tout le monde le remarque. Hier encore, je ne sais plus qui m'a demandé, mais qu'a donc votre mari ? Tu devrais prendre de la choléine. Je suis sûre que c'est le foie.
Mais pourquoi le foie plutôt qu'un autre organe ?
J'ai cette impression. C'est notre avis à tous. Tu devrais consulter du lac.
Du lac ne me dirait rien que je ne sache.
Peux-tu t'ausculter toi-même ?
Mais ce n'est rien, ce n'est rien.
Tu as déjà pris 2 tasses de café, nous ne sommes qu'au petit déjeuner. Paul, tu n'es pas raisonnable. Je dirais à la cuisine qu'on ne remplisse plus la cafetière. C'est la 3e cigarette depuis que tu es levé.
Oh, ce n'est certainement pas la 3e.
Non, on ne proteste pas. Les 2 autres bouts sont dans le cendrier.
Raymond, es-tu prêt ?
Oui, papa, je t'attends.
Bon, partons.
Le directeur m'a encore écrit à ton sujet. Ce pauvre abbé Farge, tu le rendras fou. Tout prouve, paraît-il, que c'est toi qui as fait circuler en étude ce traité d'obstétrique.
Où l'aurais-je pris ?
Tu l'aurais chipé dans ma bibliothèque. L'indignation de l'abbé Farge me paraît, je l'avoue, exagérée. Vous êtes d'âge à connaître la vie. Et après tout, mieux vaut avoir recours aux ouvrages sérieux. J'ai écrit dans ce sens au directeur.
Ah, merci, papa.
Mais on a trouvé aussi dans la caisse à papier de l'étude un numéro de la gaudriole. Et naturellement, on te soupçonne. Tu es chargé de tous les péchés d'Israël. Fais attention, mon petit. Ils finiront par te mettre à la porte même à 6 mois des examens.
Non.
Pourquoi non ?
Parce que comme je redouble, j'ai beaucoup de chance pour n'être pas recalé cette fois-ci, je les connais. Sache bien que s'ils me fichaient à la porte, les jésuites me apprennent. Ils préfèrent que je contamine les autres, comme ils disent, plutôt que de perdre un bachelier pour leurs statistiques. Mmh. Tu sais la gueule triomphante de Farge le jour des prix. 30 candidats présentés, 23 reçus et 2 d'admissibles. Tonnerre d'applaudissements. Ah, quel salaud.
Mais non, mon petit, tu te trompes.
Voici l'église de Talence. À ce soir, papa.
À ce soir, mon petit.
Le docteur appuyait sur « mon petit ». Voici la minute peut-être de se glisser dans ce cœur refusé. Déjà la route de banlieue était devenue la rue d'un matin clair et triste que les laitiers encombraient de leurs carrioles. Encore quelques minutes et ce serait l'octroi, cette croix de Saint-Genès, qu'adorèrent en passant les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et où ne s'appuyaient plus que les contrôleurs des omnibus.
Bonsoir, Maria.
Ah, docteur, vous voilà. Bonsoir.
Je m'excuse, je suis un peu en retard.
Oh, cela ne fait rien. Je sais combien votre métier est difficile et exigeant. C'est à moi de vous attendre. Voilà, je suis à vous.
Vous permettez ?
Non, ne prenez pas cette chaise, elle est cassée. C'est luxe et misère ici, vous savez.
Comment vous sentez-vous ce soir, Maria ?
Oh, las, docteur. Terriblement lasse. Pourtant, je me sens moins oppressée.
Votre pouce, s'il vous plaît. Merci. Maria,
Maria.
Non, docteur, ma main n'est pas chaude, je n'ai pas de fièvre.
Je sais, Maria.
J'ai fait, mon ami, une chose que vous approuverez sans doute. J'ai dit à Monsieur Larousselle que la voiture ne m'était plus nécessaire, qu'il pouvait vendre l'équipage et remercier Firmin. Vous savez comme il est. Un homme incapable de rien comprendre à un sentiment noble, Hilary, a prétendu que, pour un caprice de quelques jours, ce n'était pas la peine de tout chambarder ici.
Est-ce un caprice, en fait ?
Mais docteur, non, bien sûr. Je tiens bon. Et par tous les temps, je n'use que du tramway. Encore aujourd'hui, pour revenir du cimetière. J'ai pensé que vous seriez content de moi.
Je suis content de vous, Maria. Vous avez fait un effort.
Je me sens moins indigne de notre petit mort, du petit François. Et je me sens moins entretenue.
Maria.
Je me sens moins indigne de vous aussi. Vous qui êtes si grand, si admirable. L'être le plus noble que j'ai jamais connu. Oh. Vous dont l'existence seule suffit à me faire croire au bien.
Je ne suis pas ce que vous croyez, Maria. Je ne suis qu'un très pauvre homme, dévoré de désirs comme les autres hommes.
Mais vous ne seriez pas le saint que vous êtes si vous ne vous méprisiez.
Non, non, Maria, pas un saint. Vous ne pouvez pas savoir.
Cher docteur, mon cher et noble ami.
Excusez-moi, Maria. Il est temps que je m'en aille maintenant, je crois.
Vous ne préparez pas vos sorties, vous. Mais des malheureux vous attendent. Je ne veux pas être égoïste et vous garder pour moi seule. Merci d'être venu, docteur.
Bonsoir.
Bonsoir, docteur.
D'abord, ne pas faire souffrir. Il suffit que je souffre. Et ne pas faire souffrir.
Tu as plus mauvaise mine encore ce soir, Paul. Mais qu'est-ce que tu attends pour voir du lac ? Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour nous. On dirait que tu es seul en cause, mais ça nous concerne tous.
Mais oui, mon père, nous souhaitons tous de vous garder le plus longtemps possible.
Oui, père, soignez-vous pour vos enfants. Souffrez qu'ils prennent votre parti contre vous-même.
Merci. Excusez-moi, j'ai eu du travail en retard.
Il ne faut pas le frapper ainsi. Je prendrai sous mon bonnet de consulter du lac en secret.
Il n'y a pas d'erreur, ma mère. C'est un homme touché.
Il s'agit peut-être que d'une crise.
Oh non, Madeleine, le cas est grave. Ta mère a raison.
Et je pourrais que...
Mais puisque je te dis que ta mère a raison, ça ne te suffit pas.
Raymond ! Raymond, attention, tu vas l'estropier. C'est si brutal.
Par exemple, il adore les enfants, on ne peut pas lui refuser ça. Il n'y a que les petits qui trouvent grâce devant lui.
Oui, mais quelle idée de lui faire son tision. Lâche-la, vraiment. Allez, reste tranquille maintenant, hein. Je comprends.
Alors, tu n'as pas de leçon à apprendre, Raymond. Pas de composition à préparer.
Bon, ça va, je pars.
Oh. Je trouve qu'il n'y a qu'à le voir avec ses nièces pour être sûr qu'il n'est pas un mauvais drôle. Il ne faut pas en faire un drame.
Madeleine, il est temps pour ces petites d'aller se coucher. Pour nous aussi, d'ailleurs. Montons.
Allez, les enfants au lit. Dites bonsoir à grand-mère. Hein?
Bonsoir, ma mère.
Bonsoir, ma chérie.
Bonsoir.
Bonsoir,
bonsoir
madame.
Maman.
Bonsoir, Madeleine.
Bonsoir, grand-mère.
Bonsoir.
Allez, venez.
Bonsoir,
mère. Doucement dans l'escalier. C'est étonnant. Paul a un gendre qui pense comme lui sur tous les points et il ne l'aime pas.
Il n'a sans doute pas complètement pardonné d'avoir épousé Madeleine, sa fille chérie.
Il n'allait tout de même pas prendre pour mari ce Fred Robinson, étudiant sans le sou. Brillant, certes, Et maintenant, docteur sans clientèle.
Le célibataire, il n'est pas exigeant. D'ailleurs, il se destine à la recherche en laboratoire, alors la clientèle.
Tout de même, Gaston, avec sa fortune bien établie, sa carrière brillante de lieutenant, c'est un parti bien meilleur et bien plus sérieux pour Madeleine.
Je n'aime guère leur façon. Ils ne me disent jamais rien. Madeleine a bien changé.
Ah, pour ça, oui. Je ne mets jamais les pieds dans leur chambre. Elle m'a laissé entendre que ça ne lui était pas agréable. Et vous savez, ce sont des choses que l'on n'a pas besoin de me dire deux fois. Et que je sais comprendre à demi-mot.
Raymond est de nouveau assis face à elle, plein de sécurité. Il n'a rien à craindre de cet inconnu, aucun geste, aucune parole, car aucun pont ne les relie l'un à l'autre. Il la contemple avec l'insistance tranquille qui retient le regard sur une planète. Elle est là, devant lui, comme un pays inconnu. La contemplation délivre. Elle le regarde. Et ce visage la console des minutes misérables qu'il lui faut vivre dans cette voiture publique. Elle supprime le monde autour de sa sombre figure angélique. Rien ne peut l'offenser. La contemplation délivre.
Docteur, madame n'est pas encore entrée.
Et elle ne vous a pas averti qu'elle rentrera plus tard?
Non, docteur.
Elle ne m'a pas laissé un mot, rien?
Non, docteur, je ne crois pas. Mais si vous voulez attendre, je pense qu'elle ne tardera pas.
Je suis en retard moi-même, évidemment. Je ne comprends pas. Oui, je vais attendre un peu.
Bien, docteur, bien.
Elle fume trop. Elle s'intoxique. Et tous ces livres qu'elle lit. Luxe et misère. Misère et luxe. Ah, enfin. La Rousselle.
Ah, bonsoir, docteur. Quelle bonne surprise. Je suis heureux de vous rencontrer.
Bonsoir, moi aussi.
Vous gâtez trop, Maria, docteur.
Bon, pensez-vous, c'est tout naturel.
Quel gibier pour vous autres médecins, ces neurasthéniques, ces malades imaginaires. Eh non, je blague. On connaît votre désintéressement. Ah, mais j'ai une sacrée veine que Maria soit tombée sur un oiseau rare de votre espèce. Savez-vous pourquoi elle ne rentre pas? Madame a renoncé à sa voiture. C'est sa dernière lubie.
Oui, je sais.
Entre nous, je la crois un peu timbrée. Chez une jolie femme, c'est un charme de plus, hein? Qu'en pensez-vous, docteur?
Vous savez, moi...
Ce sacré courage. Ça me ferait plaisir de vous voir. Restez à dîner. Maria serait contente. Elle vous adore.
Malheureusement, je crains qu'il me faille rentrer.
Non, au moins attendez son retour. Vous savez bien, il n'y a qu'avec vous que je peux parler d'elle.
Cette passion scandalise la ville. Il n'y a pourtant que cela de noble dans cet imbécile.
Il n'y a qu'avec vous que je peux parler d'elle.
À 50 ans, il souffre encore à cause d'une femme dont il a pourtant conquis le corps. Et cela ne lui suffit même pas. Son monde, ses affaires, son écurie. Maria Cross. Maria. Douleur de ne l'avoir pas vue. Mais pourquoi n'a-t-elle pas songé à m'avertir? Il faut que je compte bien peu dans sa vie. Elle renonce à me voir sans même y arrêter sa pensée. Et moi, je mets l'infini dans des minutes qui ne sont rien pour elle. Ah, Maria, pourquoi n'es-tu pas venue?
Madeleine.
Oui.
La propriété fait-elle partie des acquets?
Des acquets?
Je veux dire, a-t-elle été achetée par tes parents depuis leur mariage?
Hein, je crois bien, mais je n'en suis pas sûre. Pourquoi?
Ce serait intéressant à savoir. Parce qu'au cas où ton pauvre père... Nous aurions droit à la moitié. Quel âge a Raymond?
Il doit avoir 17 ans depuis mars dernier.
T'ennuyeux.
Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi me demandes-tu ça?
Pour rien. Enfin, pour moi, j'espère bien que ton pauvre père ne nous quittera pas avant quelques années.
Voyons, Gaston, nous le souhaitons tous.
Oui, je comprends, maman. Tout ça, c'est...
Je fais le dos rond. Je ne réponds jamais que, eh bien, ma fille, à votre aise, comme vous voudrez. Je ne suis pas contrariante. Depuis que Lucie m'a fait sentir que c'était elle qui avait la fortune. Tiens, voilà ton courrier du soir.
Merci.
Dieu merci, tu gagnes assez d'argent. Il est certain que lorsque tu l'as épousée, tu avais de l'avenir, mais rien de plus. Et elle, une boule acier, Delboeuf. Oui, je sais bien que leurs usines n'étaient pas alors ce qu'elles sont devenues. Tout de même, elle aurait pu faire un mariage plus riche. Quand on en a, on en veut, comme elle m'a dit un jour à propos de Madeleine. Ne nous plaignons pas. S'il n'y avait pas les domestiques, ça marcherait.
Ce qu'il y a de terrible dans la vie, ma pauvre maman, c'est de faire vivre dans une même cuisine des domestiques qui n'ont pas les mêmes maîtres. Allons, bonne nuit.
Bonne nuit, mon petit.
Encore une lettre de Maria, pleine de complaisance, de fausse humilité satisfaite, sans doute. Cette adresse qu'ont les êtres déchus pour embellir leur déchéance. Fou. Comment ai-je pu être assez fou pour croire qu'une jeune femme pût avoir le goût sensible de ma présence? Je ne suis rien, rien pour celle qui m'était tout. Et cette phrase de Maeterlinck, dont elle savait si bien se protéger... Un temps viendra, et il n'est pas loin, où les âmes s'apercevront sans l'intermédiaire des corps. Écrivez-moi, vos lettres me suffisent, mon cher directeur de conscience. Cela suffit maintenant. J'ai assez entendu parler de son fils mort et de cet horrible Larousselle. La même espèce que mon gendre Gaston Basque, même lippe sous les moustaches teintes, même bajou, même carrure, même complaisance inaltérable de soi. Oui, cela suffit. Il est temps de vous reprendre. Voyons cette lettre. Encore 4 pages. Mais n'a-t-elle donc pas senti dans ma dernière lettre que j'ai compris enfin qu'elle n'a plus besoin de moi? Une femme qui ne peut se résoudre à demeurer chez elle un seul après-midi est sans doute une femme qui se porte le mieux du monde. Monsieur Larousselle assistera aux courses de taureaux. Il connaît mon peu de goût pour ce genre de spectacle. Venez partager mon goûter. Je vous attendrai jusqu'à 5h30. Ah, ça alors? Oh non, c'est pas possible. Dimanche? Mais c'est dans 2 jours. Voyons, voyons. Juste une consultation le matin. 2 jours à attendre. Oh, Maria, cette fois, il faut que j'aie le courage de lui avouer. Oui, c'est une chance unique, il faut que je lui parle.
Demain dimanche, je vais à la corrida, ce sera bien. C'est la première de l'année, il y aura Al Gabano et Fuentes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des ennuis?
Oui.
Qu'est-ce que c'est? C'est grave?
Ennuyeux. Hier au soir, on m'a téléphoné du laboratoire pour m'annoncer que le chien dont j'avais fait l'ablation du pancréas est mort.
Ah?
Je ne sais si Robinson pourra s'en procurer un autre à la fourrière. Bon, tout est à recommencer. Je crains de ne pas avoir enregistré assez de faits pour confirmer mon hypothèse.
Évidemment, c'est ennuyeux. Ah, nous voici à l'église de Talence. À ce soir, papa.
À ce soir, mon petit.
chien est mort. Je ne serai jamais qu'un demi-savant. C'est que la science exige d'être servie avec passion. Elle ne souffre pas de partage. Maria. À 52 ans, il est temps encore de savourer quelques années d'un bonheur, peut-être empoisonné de remords. Mais celui qui n'a rien eu, pourquoi résisterait-il, fût-ce à une ombre de joie? Ma présence ne sert même pas à rendre heureuse l'épouse la plus amère. Ma fille, mon fils. Depuis longtemps, j'ai renoncé à être aimé d'eux. Maria. À notre prochaine rencontre, pas de préparation. Mais que les mots soient une allusion directe à ma détresse lorsque j'ai cru qu'elle ne souhaitait plus me voir. Elle s'étonnera, et alors je lui dirai, nous sommes l'un et l'autre au fond d'une impasse, Maria. Nous ne pouvons plus rien que mourir contre un mur, ou vivre en revenant sur nos pas. Vous ne sauriez m'aimer, vous qui n'avez jamais aimé. Il reste de vous livrer toutes au seul homme capable de ne rien exiger en échange de sa tendresse. Ils n'ont pas besoin de moi. Un enterré vivant a le droit, s'il le peut, de soulever la pierre qui l'étouffe. Vous ne sauriez mesurer le désert qui me sépare de cette femme, de cette fille, de ce fils. Les mots que je leur adresse n'arrivent même plus jusqu'à eux. Les animaux, quand leurs petits sont grands, les chassent. Et le plus souvent d'ailleurs, les mâles ne les connaissent pas. Ces sentiments qui survivent à la fonction, c'est une invention des hommes. Le Christ le savait, qui a voulu être préféré à tous les pères et à toutes les mères, et qui a osé se glorifier d'être venu séparer l'époux de l'épouse et les enfants de ceux qui les ont mis au monde. Et ne suis-je pas pour vous son image? Ne me devez-vous pas le goût d'une certaine perfection? Non. Non. Non, ne pas introduire de métaphysique dans la conversation. Non. Si je mourais, il faudrait bien qu'on se passât de moi. Qui est indispensable? Or, c'est bien de mourir qu'il s'agit, Maria. Mourir à cette pauvre vie recluse et besogneuse pour renaître avec vous. Ma femme garderait la fortune qui lui appartient. Je ne serais pas en peine de vous faire vivre. On m'offre une chaire à Alger, une autre à Santiago. Je laisserai à mes enfants ce que j'ai pu mettre de côté jusqu'à ce jour. Je suis un homme, Maria. Un pauvre homme de chair comme les autres. Et oui. Oui, c'est ça. Oui, lui parler de ma faiblesse et de mon désir de bonheur, du sien et de l'espoir qu'elle doit garder. On ne peut pas vivre sans bonheur. Je le découvre trop tard, mais peut-être pas trop tard pour que vous consentiez à me suivre. Il faut d'abord que vous ayez foi en votre volonté. Si vous ne vous croyez pas libre, je ne peux rien pour vous. Tout notre art échoue contre une idée fausse. Si vous vous croyez la proie impuissante de vos hérédités, qu'espérez-vous de moi? Avant d'aller plus loin, j'exige un acte de foi dans votre pouvoir de dompter en vous toutes ces bêtes qui ne sont pas vous-même. Me comprenez-vous, Maria? Dites, me comprenez-vous?
Docteur, mon ami.
Alors, Raymond, tu as quitté la corrida après la mise à mort du quatrième taureau?
Oui.
Pourquoi?
Oh, je voulais pas manquer le tram de 6 heures.
Oh, quelle idée.
Je comprends pas que ton père te permette d'assister à cette boucherie.
C'est tendant, ces officiers qui ont horreur du sang.
Raymond.
Tu ne m'as pas regardé?
Si, je te regarde, je ne vois qu'un blanc bec.
Raymond.
Un blanc bec.
Gaston, Gaston, ne réponds pas. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'a pas d'importance venant de lui.
Raymond, je t'en prie, assieds-toi et mange. Et que ce soit fini.
Je traite de l'âge, je ne le pardonnerai pas.
Voyons, Gaston, calmez-vous, Raymond n'a pas voulu dire ça. Mais c'était qu'un enfant, après tout.
Oh.
Et toi, ne réplique pas. Mange.
Pleut-il encore?
Non, il ne pleut plus.
Nous faisons quelques pas dans le jardin.
Non, merci, papa. Bonsoir.
Bonsoir. Lui aussi me fuit. C'est étonnant comme il ressemble à mon pauvre père. Pourquoi ne nous parlons-nous jamais? Y a-t-il si loin d'un père à un fils? J'ai le même cœur qu'à 20 ans, et il est sorti de moi. J'aurais tant besoin qu'il me parle, de le sentir près de moi. Il y a Lucie, bien sûr. Lucie. Comme il fait bon maintenant. Les arbres s'égouttent calmement. Maria. Pourquoi ai-je été si stupide? Pourquoi? J'étais en retard comme d'habitude. J'ai dû prendre le tramway. Mais elle m'a toujours attendu, je crois. Elle m'avait dit jusqu'à 5h30.
Descendez.
Pardon.
Bien.
Ah, eh bien, ne poussez pas comme ça, quand même, dites donc.
Excusez-moi, madame, excusez-moi.
Vous écrasez le petit, là, non.
Maria, où courez-vous ainsi?
J'avais écrit 5h30.
Je sais, je vous demande pardon. Il m'a fallu passer au laboratoire. Vous sortiez?
Oui, comme chaque jour. Je voulais prendre le tram de 6h.
Même un dimanche?
Pour moi, les jours sont tous les mêmes, vous savez.
Vous avez quitté le deuil?
Le mauve n'est-il pas du demi-deuil, alors?
Puisque vous ne comptiez plus sur moi et que vous êtes peut-être attendu ailleurs, ce sera pour une autre fois.
Mais qui voulez-vous qui m'attende? Vous êtes drôle, docteur. Venez, nous allons goûter ensemble.
Il la suivait. Elle laissait traîner sa robe de taffetas mauve dans la poussière. Comme elle baissait la tête, il voyait sa nuque. Elle songeait que, si elle avait donné rendez-vous au docteur un dimanche, c'était dans la persuasion que ce jour-là, l'enfant inconnu ne prendrait pas le tram de 6h. Mais tout de même, folle de joie et d'espoir, parce que le docteur n'était pas venu à l'heure fixée, elle avait couru, à tout hasard, se disant « N'y eut-il qu'une chance sur 1000 qu'il ait pris le tram habituel à cause de moi ?» Oh, ne pas manquer cette joie. Hélas, elle ne saurait jamais si l'enfant inconnu, ce dimanche-là, avait été triste dans le tram de 6h, en ne la voyant plus.
Voilà arrivé. Mettez-vous à l'aise, docteur. Je peux ouvrir, il ne fait pas aussi chaud. Il va pleuvoir. Asseyez-vous, docteur, vous êtes essoufflé. Je vous ai fait marcher trop vite.
Je ne suis pas si vieux.
Je vous demande pardon.
Et cette santé?
Oh, je ne me suis jamais sentie aussi bien portante.
Alors vous pouvez sans inconvénient interrompre vos piqûres.
Je dors. Je ne m'ennuie plus, figurez-vous, docteur. Pourtant, je n'ai envie de rien lire. Je ne saurais venir à bout du voyage de Sparte. Vous pouvez le reprendre.
Vous ne voyez toujours personne?
Pensez-vous que je sois femme à me commettre tout d'un coup avec les maîtresses de ces messieurs? Moi qui les ai fuis jusqu'à présent comme la peste? Je suis seule à Bordeaux de mon espèce, vous le savez bien. Je ne peux frayer avec personne.
Eh bien, si vous ne voyez pas ces dames, vous voyez quelquefois ces messieurs, peut-être.
Ça, docteur, seriez-vous jaloux? Mais c'est qu'il me fait une scène de jalousie.
Oh.
Rassurez-vous, je plaisante. Je sais qui vous êtes. Je ne vous ai pas blessée, au moins.
Si, Maria, vous m'avez blessée.
Oh, docteur! Mais vous savez bien combien je vous respecte, je vous vénère. Ne vous êtes-vous pas abaissé jusqu'à moi? N'avez-vous pas daigné parfois m'élever jusqu'à vous? Mon cher ami...
Lâchez ma main, je vous en prie.
Docteur.
Il vaut mieux que je rentre avant l'averse, après tout. Excusez-moi, Maria. Excusez-moi.
Docteur! Docteur.
C'est ainsi. J'ai mal joué et j'ai perdu. Tout est fini. Fini. Lucie.
Oui.
Veux-tu faire un tour au jardin avec moi?
Hein? Ah oui, oui, bien sûr, Paul. Attends, je vais chercher un châle.
À partir de ce soir, il faut que je rende Lucie heureuse.
Mais voilà.
Prends mon bras, Lucie. N'as-tu pas remarqué un grand changement chez Raymond ?
Non, non. Je le trouve toujours aussi maussade. Grognon. Puté.
En es-tu sûre, Lucie ? Je trouve que Raymond se laisse moins aller. Il a plus de maîtrise sur soi. Ne serait-ce que de la façon dont il a répondu ce soir à Gaston. Et il y a aussi ce soin nouveau qu'il apporte à sa tenue.
Ah oui, parlons-en. Julie bougonnait hier, parce qu'il exige qu'elle repasse deux fois par semaine ses pantalons.
Tâche de raisonner Julie. Elle a vu naître Raymond.
Julie est dévouée. Mais le dévouement a des limites. Madeleine a beau dire, ses domestiques ne font rien. Julie a mauvais caractère, c'est entendu. Mais je comprends qu'elle soit furieuse d'être obligée de faire l'escalier de service et une partie du grand escalier. Qu'est-ce que tu veux?
Notre petit Raymond.
Nous ne remplacerons pas Julie, voilà ce qu'il faut se répéter. Tu me diras qu'elle fait partir toutes les cuisinières. Et bien souvent, c'est elle qui a raison.
Et les domestiques de maintenant ne sont pas ceux d'autrefois. Nous ferions mieux de rentrer.
Madeleine me répète que la cuisinière lui fait la tête. Mais c'est pas à cause de Julie. Cette fille veut de l'augmentation. Ici, elles n'ont pas autant de bénéfices qu'à la ville, bien que nous ayons de très gros marchés. Sans ça, elle ne resterait pas.
Je vais rentrer.
Déjà ? Nous ne causons pas si souvent, pourtant, Paul. Tu as encore laissé l'électricité allumée chez toi. Mais Paul... Paul... Ah, ça...
Passe.
On s'est arrêté.
Ma foi.
Savoir si ça sera long.
Une panne d'électricité.
Oh, ça dépend. Moi, je descends parce qu'on ne sait jamais.
Hein. Eh bien, faites attention, voyons. Moi aussi, je descends. Ne poussez pas comme ça, quand même.
Moi aussi, je descends. Pardon, monsieur. Pardon.
Pardon. Après tout, je n'ai pas si loin à aller.
Pour une fois, ce ne serait pas si désagréable de faire la route à pied.
Depuis le temps que nous revenons ensemble, il ne faut pas perdre l'habitude, n'est-ce pas?
Bien sûr. Pardon, madame.
Pardon.
Pardon.
C'est vrai que vous n'habitez pas loin.
Oui, l'église de Talence est à 10 minutes des boulevards. Mais vous, peut-être, monsieur... Avez-vous un plus long trajet?
Oh non, je descends un peu après l'église. Je suis le fils Courrèges.
Le fils du docteur?
Oui, il est connu, n'est-ce pas?
Le monde est petit, décidément. Surtout, ne lui parlez pas de moi.
Oh, je n'y parle jamais de rien et... Et d'ailleurs, je ne sais pas qui vous êtes.
Mieux vaut que vous ne le sachiez pas.
Si? Si, dites-moi votre nom. Moi, je vous ai bien dit le mien.
C'est tragique quand vous saurez qui je suis.
On se rencontrerait tout de même dans le tram. Vous vous êtes aperçu que j'ai fait exprès de prendre celui de 6 heures.
Oh.
Non? Oh, quelle blague. Parce que vous savez, quelquefois, j'arrive assez tôt pour celui de moins le quart. mais je fais exprès de le laisser filer à cause de vous.
Oh.
Oui. Et même hier, je suis partie après le quatrième taureau pour ne pas vous rater. Et justement, vous n'y étiez pas.
C'est vrai?
Oui. Et il paraît que Fintès a été prodigieux pour son dernier. Bon, maintenant qu'on s'est parlé, qu'est-ce que vous voulez que ça efface? Comment vous vous appelez?
Petit curieux.
Avant, je me fichais de tout. Mais depuis que je sais que vous me regardez...
Vous êtes gentil.
Il faudra bien que vous me disiez votre nom. Et puis, je n'aurai qu'à le demander à papa, ce sera facile. Une dame qui descend toujours devant l'église de Talence...
Je vous le dirai, mais il faut me jurer que vous ne parlerez jamais de moi au docteur. Maintenant, il vaudrait mieux que vous partiez seul. À cause des fournisseurs qui me reconnaîtraient, feraient des histoires.
Oui, mais... Mais pas avant de savoir.
Maria Cross.
Maria Cross?
Attendez de me connaître.
Maria Cross. Oh.
N'allez pas croire. Surtout, n'allez pas croire. Au revoir.
Hé hey, attendez. À demain soir, n'est-ce pas, au même tramway?
Vous le voulez?
Oh, bien sûr. Au revoir. Maria Cross, elle béguin pour moi. Maria Cross, elle béguin pour moi.
Encore plongé dans tes revues médicales.
Je ne lis pas, maman. Je coupe les pages d'un livre.
Hé hey, c'est mon drôle.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, grand-mère.
Tu sens la résine.
J'étais dans le bois de berge.
Oh, canard.
J'ai vu Maria Cross ce soir.
Comment as-tu su que c'était elle?
J'étais avec Papillon, qui la connaît de vue.
Oh! Raymond Pigafard.
Oui, oui, oncle Raymond Pigafard.
Elle était seule?
Oui, seule.
C'est curieux que ces femmes-là vous intéressent plus que les autres. Mais qu'y a-t-il d'extraordinaire à avoir vu passer cette créature? Du temps qu'elle était femme de chambre, vous ne l'auriez même pas regardée.
Mais elle n'a jamais été femme de chambre, voyons.
Oh, d'ailleurs, cela n'aurait rien eu de déshonorant pour elle, bien loin de là. Je dirais que tu fais exprès d'indisposer les domestiques et de les blesser quand ils sont là. Irma est justement très susceptible.
C'est incroyable. Il faut toujours prendre des gants maintenant.
Traite tes domestiques comme il te plaira. Ne fais pas partir ceux des autres. Surtout quand tu les obliges à servir à table.
Comme si tu te gênais avec Julie, toi qui passes pour ne pas pouvoir garder une domestique. Mais tout le monde sait que lorsque les miens sont bons, c'est à cause des tiens.
Chut. Là, voilà.
Maria Cross est la fille de cette institutrice qui dirigeait l'école de Saint-Clair. Lorsque ton cher monsieur Labrousse était curé, Lucie.
Ouais, cette harpie qui lui a fait tant de misère, qui avait préféré ne plus aller à la messe plutôt que de ne plus occuper avec ses élèves les premiers rangs de la grande nef. Eh ben, ça ne m'étonne pas. Bon sang ne peut mentir.
Tu te rappelles, ce pauvre monsieur Labrousse racontait que le soir des élections, où le marquis de Lursalus avait été battu par un petit avocat de Bazas, l'institutrice était venue le narguer avec toute sa bande sous les fenêtres du presbytère, et qu'à force d'avoir tiré des bombes en l'honneur du nouveau député, elle avait les mains noires de poudre.
Tout ça, c'est du joli monde.
Raymond, tu as une cigarette? J'ai oublié le goût du tabac.
Voilà, papa.
Merci.
Nous faisons un tour?
Oui, si tu veux.
Et bien sûr, une femme de l'envergure de Maria Cross ne peut que faire horreur à de pauvres dévotes. Moi, je l'admire pour sa hardiesse, au contraire. Oui. Pour son ambition sans frein, pour toute cette vie dissolue qu'elle a menée.
Mais non, Raymond, tu la connais fort mal. Elle n'a rien d'une courtisane. Il ne faut pas croire le monde.
Oh, quand même.
Je la connais, Maria Cross. Je peux dire que pendant la maladie de son petit François, et depuis, j'ai été son meilleur ami. J'ai reçu ses confidences.
Pauvre papa, ce qu'il a dû se piller ta tête, non?
Mais non, mon petit. Elle se confiait à moi avec une humilité extraordinaire. S'il y a un être au monde dont on peut dire que ses actes ne lui ressemblent pas, c'est bien Maria Cross. Elle a été perdue par une indolence inguérissable. Sa mère, l'institutrice de Saint-Clair dont je parlais tout à l'heure, lui avait fait préparer Sèvres. Mais son mariage avec un aide-major du 144e interrompit ses études. Mais pendant ses 3 ans de ménage, il n'y a rien eu à dire sur son compte. Et si son mari avait vécu, elle eût été la plus honnête et la plus obscure des femmes. Il ne lui reprochait rien. Que cette indolence qui la rend incapable de s'intéresser à son intérieur. Il grondait un peu en rentrant, me disait-elle, de n'avoir pour dîner qu'un plat de nouilles réchauffé sur une lampe à alcool. Ah, elle préférait lire toute la journée, vêtue d'une robe de chambre déchirée, les pieds nus dans ses pantoufles.
Toujours déshabillée, quoi.
Cette prétendue courtisane, si tu savais ce qu'elle se fiche du luxe. Tiens, il n'y a pas longtemps encore, elle a décidé de ne plus servir du coupé que lui avait donné la Roussel. Et elle prend le tram comme tout le monde. Mais qu'est-ce que tu as à rire? Je ne vois pas ce que cela a de drôle. Mais ne ris donc pas comme ça, c'est agaçant. Et quand elle s'est trouvée veuve, avec un enfant, et qu'il a fallu travailler, tu imagines assez comme cet intellectuel a dû se sentir démuni. Pour son malheur, une amie de son mari l'a fait entrer comme secrétaire chez la Roussel. Maria n'avait aucune arrière-pensée alors.
Ah.
Mais impitoyable pour ses employés, la Roussel ne lui fit jamais une observation. Bien qu'elle fût toujours en retard et qu'elle n'abattît guère de besogne.
Et pour cause.
Il n'en fallait pas plus pour la compromettre. Et quand elle s'en aperçut, impossible de réagir. Elle était pour tous la poule du patron. Et leur hostilité lui rendit la position intenable.
Pauvre Maria.
Elle en avertit la Roussel, qui n'attendait que ce moment. Il offrit à la jeune femme, jusqu'à ce qu'elle eût une autre place, de surveiller sa propriété aux portes de Bordeaux, qu'il n'avait pas pu ou pas voulu louer cette année-là.
Et elle a trouvé ça tout ce qu'il y a de plus innocent.
Oh. Mais non, évidemment. Elle a bien vu où il voulait en venir. Mais la pauvre femme avait la charge d'un loyer trop élevé pour ses moyens. Et puis, le petit François était atteint d'entérite. Le médecin jugeait indispensable qu'il habite à la campagne. Enfin, elle se sentait si compromise déjà qu'elle n'eut pas le courage de renoncer à une telle aubaine. Elle se laissa faire violence.
C'est le cas de dire.
Tu ne sais pas de qui tu parles. Elle a résisté longtemps. Mais quoi ? Elle ne pouvait défendre à la Roussel d'amener des gens le soir. Elle a été faible, inconséquente, en acceptant de présider ses dîners, je le reconnais. Mais ce fameux dîner du mardi, ces prétendues orgies, j'ai su comment ça se passait. Il n'était scandaleux que parce qu'à ce moment-là, l'état de Madame la Roussel avait empiré. Je te jure que Maria ignorait alors que la femme du patron fût en danger. « Je n'ai pas eu conscience de mal faire, me disait-elle. Je n'avais encore rien accordé à M. la Roussel, pas un baiser, rien. Ah, qu'y avait-il de répréhensible à présider cette tablée d'imbéciles ? Elle jouait à l'intellectuel. Et elle sentait que le patron était fier d'elle. Il avait promis de s'occuper du petit.
Ah, alors elle t'a fait avaler tout ça.
Mais c'est vrai ! Elle n'a cédé à la Roussel qu'après la mort de sa femme. Par lassitude, par une sorte de nonchalance désespérée. Oui, tiens, oui, c'est bien le mot. Nonchalance désespérée. La Roussel ne la considère pas comme d'une autre race que les grues avec lesquelles il la trompe chaque jour. Mais leur intimité physique se réduit à fort peu, je le sais. J'en suis sûr, cela, mon petit, je te le certifie. Quoi qu'il soit fou de Maria, il ne serait pas homme à ne l'afficher que pour la montre, comme on le croit à Bordeaux. Mais... elle se refuse à lui.
Alors quoi, Maria Cross, c'est une sainte.
Tu me trouves bien sot, hein? Mais de nous deux, mon petit, c'est toi pourtant le naïf. Ne croire qu'au mal, c'est ne pas connaître les hommes. Oui, tu as dit le mot. Chez une Maria Cross dont je sais les misères, une sainte se cache. Oui, 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 peut-être une sainte. Mais tu ne peux pas comprendre.
Oh, laisse-moi rire.
D'ailleurs, tu ne la connais pas. Tu ajoutes foi à des racontards. Moi, je la connais.
Et moi, je sais ce que je sais.
Que sais-tu?
Mais lâche-moi donc. Bien, moi, que Maria Cross se refuse à un Laroussel. Il n'y a pas que lui.
Menteur.
Ah, ça, mais... Papa.
Oui, menteur. Blagueur qui veut m'enlever des illusions. Allons, raconte.
Je ne sais rien.
Mais tu as dit tout à l'heure, je sais ce que je sais.
Oh oui, je parlais en l'air.
Tu ne t'assieds pas un instant, Raymond? Voilà un souffle, enfin. Moi, je vais rester.
Non, je préfère entrer lire. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faudra que je dise au jardinier?
Vous êtes amusant. Mais soyez sans crainte, personne ne vous verra. Surtout, Raymond, n'allez pas croire que je veuille... N'allez pas imaginer...
Ça m'embête de passer devant le jardinier.
Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas de jardinier. J'occupe une propriété vide, que M. Larousselle n'arrive pas à louer. Il m'a mise là comme gardienne.
C'est vous la jardinière?
Toutes les apparences m'accablent. On n'est pas obligé de savoir que j'étais de bonne foi quand j'ai accepté cette place. Il fallait l'air de la campagne pour François.
Alors vous dites qu'il n'y a pas de jardinier, mais les domestiques.
Rassurez-vous. Le dimanche, je donne congé à Justine, mon unique bonne. C'est une femme mariée à un chauffeur qui vient coucher le soir pour qu'il y ait un homme dans cette maison mal fermée. Vous savez, la banlieue n'est pas sûre. Mais le dimanche après-midi, Justine sort avec son mari. Vous n'aurez qu'à entrer, traverser la salle à manger à gauche, le salon est au bout.
Bon, je viendrai. À dimanche.
À dimanche. Oui, je veux le recevoir dans ma maison. Parce que dans la rue, sur un banc de jardin public, je ne saurais atteindre son secret. Je veux qu'il vienne. Pas pour le mal, non. Pas pour le mal, cette pensée me donne la nausée. N'empêche qu'il se méfie. Et comment ne se méfierait-il pas ? Tous mes actes ont une face innocente tournée vers moi et une face abominable tournée vers le monde. Mais c'est le monde, peut-être, qui voit juste. Mais après, qui nous défend le bonheur? Ne saurais-je pas le rendre heureux, ce petit? Bien sûr, c'est l'enfant du docteur Courrèges, de ce saint docteur... de ce saint docteur.
Tiens, papillon. Voilà ce que j'ai reçu d'elle aujourd'hui.
Une lettre?
Oui, elle ne veut plus me recevoir. Lis.
Ne venez pas dimanche, décidément, ni dimanche, ni jamais. C'est pour vous seul que je consens à ce sacrifice. Ouh là là, bon sang, dis donc.
Continue, tu vas voir.
Vous aurez été l'unique objet, l'unique joie d'une vie atroce et perdue. Dans nos retours de cet hiver, je me reposais en vous qui ne le saviez pas, mais ce visage que vous me donniez n'était que le reflet d'une âme dont je souhaitais la possession. Ne rien ignorer de vous, répondre à vos inquiétudes, écarter les branches devant vos pas, devenir pour vous plus qu'une mère, mieux qu'une amie, j'ai rêvé cela. Mais il ne dépend pas de moi d'être une autre. Vous respiriez malgré vous, malgré moi, l'atmosphère corrompue où j'étouffais. Ben dis donc.
Qu'en penses-tu?
Ce que j'en pense. Eh bien, mon vieux, elle veut te faire marcher.
Tu crois?
Oh, j'en suis certain, elle veut te faire marcher. Aussi, ne la laisse pas manœuvrer, arrive les mains dans les poches.
Tu crois qu'il faut que j'y aille?
Ben oui, bien sûr, rejoins-la à l'heure, comme convenu. Il vaut mieux, avec elle, brusquer les choses.
Oui?
Oh, tu parles, j'en suis certain. Avec ces femmes-là, la brutalité, il n'y a que ça. Elles n'aiment que ça, crois-moi.
Bon, ben j'irai, tu as raison, il faut brusquer les choses. Quelque temps qu'il fasse, j'irai.
Raymond, où vas-tu? Tu sors? Ah, ça, par un temps pareil, aller à Bordeaux un dimanche après-midi. Et il ne répond même plus quand je l'interroge. Et toi, tu ne dis rien, tu trouves ça naturel.
Moi?
Oui. Mon fils va à Bordeaux presque tous les soirs maintenant. Je sais qu'il demande la clé du portail au jardinier et qu'il rentre à 2 heures du matin par la fenêtre de la Souillarde. Si tu voyais comme il répond à mes observations, c'est à toi d'intervenir. Oh, tu es d'une faiblesse.
La sagesse est de fermer les yeux.
Si c'était mon fils, je te le dresserais, moi.
Tu n'as pas reçu ma lettre?
Si.
Après tout, pourquoi pas? Vous avez bien fait de venir. Imposez donc votre chapeau sur une chaise. Mais ça ne fait rien qu'il soit mouillé. Ce velours de Gênes en a vu bien d'autres. Là. Un peu de Porto? Oui? Non? C'est oui.
Merci, oui. Merci.
Pourquoi j'ai écrit cette lettre, je ne le sais pas moi-même. Les femmes ont des lubies. D'ailleurs, je savais bien que vous viendriez tout de même.
Mais pourtant, j'ai bien failli ne pas venir. Je me disais, elle ne sera pas là. Et j'aurais l'air d'un idiot.
Vous êtes gentil. Vous sortez de chez le coiffeur.
Oui. Ça se voit tant que ça.
Oh, vous avez une cicatrice au front.
Oh, j'ai tombé en bas de la balançoire quand j'avais 8 ans.
Pauvre enfant. Ben, asseyez-vous donc, là.
Merci.
Je ne vous fais pas peur, au moins.
Non.
Comment va votre cher père? Cigarette?
Oui, merci. Oh, vous savez, mon père...
Oui. Vous m'avez déjà dit que vous n'aviez pas beaucoup d'intimité avec votre père. C'est la règle, les parents et les enfants. Tenez, lorsque François venait se blottir sur mes genoux, je songeais, profitons-en, ça ne durera pas toujours. Je ne vous ai jamais parlé de mon petit François.
Non, il doit y avoir un peu plus d'1 an qu'il est mort.
Oui.
Je me rappelle très bien le jour d'enterrement, maman a fait une scène à mon père.
Pourquoi une scène? Ah oui, je comprends. Même ce jour-là, on n'avait pas pitié. Je vais vous montrer ces photographies. Votre père seul les connaît. Elles sont toutes dans cet album. Tenez, le voilà à 1 mois dans les bras de mon mari. À cet âge-là, ça ne ressemble à rien, sauf pour la maman. Regardez-le à 2 ans, qui rit avec un ballon dans les bras. Là, vous voyez.
Ah, pardon.
Nous étions assez alis. Il était faible déjà. J'avais dû prendre sur mon maigre capital pour payer cette saison. Mais il y avait là-bas un docteur d'une bonté, d'une charité. Il s'appelait Casamajor. C'est lui qui tient l'âne par la bride. Le voilà à 6 ans et demi, 2 mois avant sa mort. Il avait bien repris, n'est-ce pas? Je me suis toujours demandé si je ne l'avais pas fait trop travailler. Votre père m'assure que non. Le cher homme. Au fait, je le trouve souffrant ces derniers temps. Il a bien mauvaise mine.
Et si nous parlions d'autre chose? Je ne suis pas venu ici pour parler de mon père, vous savez. Nous avons mieux à faire. Non?
Mais non, Raymond, non! Vous le méconnaissez parce que vous vivez trop près de lui. Nos proches sont ceux que nous ignorons le plus. Nous arrivons à ne plus même voir ce qui nous entoure. Tenez, dans ma famille, on m'a toujours cru laide. Parce qu'étant enfant, je louchais un peu. Et au lycée, à ma grande stupéfaction, mes camarades m'ont dit que j'étais jolie.
Oui, c'est ça, racontez-moi les histoires d'ici de filles.
Mais non! Moi, je vais vous apprendre à connaître le docteur. Je suis entêtée.
Je suis têtue, moi aussi, vous savez. Ainsi, tenez, je me suis juré qu'aujourd'hui, eh bien, je ne serai pas manœuvrée.
À moins que ce ne soit le canon de Saint-Médard.
Est-ce que ça peut bien nous faire? Maria?
Non. Raymond, voyons. Mais c'est le gosse que vous êtes. Mais lâchez-moi, voyons.
Maria.
Raymond, voyons. Mais lâchez-moi! Alors, mon petit, vous croyez qu'on prend une femme de force?
Je vous demande pardon.
Excusez-moi, Raymond, mais j'ai besoin d'être seule. Comprenez-moi, je veux être seule. Seule!
Idiot, idiot. Je suis parti sans lui servir son paquet à cette garce. Mais je me vengerai. Oui, je me vengerai.
Ah, enfin, te voilà.
Oui.
Ton père est dans sa chambre. Il s'est finalement décidé à demeurer au lit 48 heures sans manger ni boire que de l'eau. Robinson est venu le voir.
Robinson?
Oui. J'aurais mieux aimé du lac, mais enfin, Robinson, c'est tout de même un médecin. Il s'est ausculté. Tu montes le voir? Ne le dérange pas trop. Il a besoin de repos.
On y voit goutte.
Je vais aller chercher une lampe à pétrole. C'est moins fatigant pour les yeux que l'électricité.
Embrasse-moi.
Papa, tu te rappelles notre conversation à propos de Maria Cross?
Oui. Eh bien. Eh bien, quoi? Qu'est-ce que tu sais? Dis vite.
On m'avait trompé, papa. Il n'y a que toi qui connaisses bien Maria Cross. Je tenais à te le dire. Ah. Et maintenant, repose-toi.
Mon petit.
Si tu es pâle. Tu es sûr que c'est bon pour toi, cette diète?
Mon opinion sur Maria est faite depuis longtemps. Chut.
Voilà de la lumière.
Bonsoir, papa.
Bonsoir.
Repose-toi bien. Bonsoir, grand-mère.
Bonsoir. Ne rentre pas trop tard, surtout.
Dort-il?
Non.
Tu dois être bien faible.
Je ne pourrais pas me tenir debout.
Mais la diète n'est pas un mauvais remède, loin de là.
Tu dois sentir le besoin de prendre quelque chose.
Non, ça va.
Tu n'as pas chaud.
Raymond a encore pris le dernier tram pour Bordeaux. Dieu sait à quelle heure il rentrera.
Il avait une tête ce soir, une tête à faire peur.
Quand il aura épuisé l'argent de ses étrennes, il va nous faire des dettes. Si ça n'est déjà pas commencé.
Notre petit Raymond, dans sa 19e année déjà.
J'entends quelqu'un marcher. Ça ne peut être Raymond. Le chien se serait calmé. Qui est là?
On demande le docteur. C'est pressé.
Le docteur ne se dérange pas la nuit, vous le savez bien. Allez au village, chez le docteur Larue.
Mais on demande le docteur, courage.
Lucie, dis-lui qu'il n'y a rien à faire. Ce ne serait pas la peine d'habiter la campagne exprès pour n'être pas dérangé la nuit.
Impossible, monsieur. Mon mari ne fait que la consultation. Il est d'ailleurs engagé vis-à-vis du docteur Larue.
Mais madame, il s'agit d'une de ses clientes, une voisine. Quand il saura son nom, il viendra, c'est Madame Cross. Madame Maria Cross, qui a fait une chute.
Maria Cross? Pourquoi voulez-vous qu'il se dérange pour elle plutôt que pour n'importe qui?
Paul, tu te lèves?
C'est vous, Marot. Je ne reconnaissais pas votre voix. Qu'est-il arrivé à madame?
Une chute, monsieur. Sur la tête. Elle a le délire. Elle appelle monsieur le docteur.
5 minutes, Marot. Le temps de m'habiller.
Mais tu ne vas pas y aller, Paul.
Où sont mes chaussettes?
Paul, mon petit, tu es trop faible.
Mais ne viens-tu pas de déclarer à l'instant que tu ne te dérangerais à aucun prix la nuit? Mais pourquoi ce changement? Oh, mais il ne tient pas debout. Il va s'évanouir de faiblesse.
Il s'agit d'une cliente. Tu comprends qu'il n'y a pas hésité.
Ah oui? Oui, je comprends. J'y ai mis le temps. Mais je comprends.
Mais non, ma pauvre Lucie. Tout ça est loin de moi maintenant. Tout ça est bien fini. Oui, oui, je suis très attaché à cette malheureuse. Mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est vrai, je suis à jeun. Peux-tu me faire du chocolat sur la lampe à alcool?
Si tu crois que je trouverai du lait à cette heure, il n'y a probablement plus de pain à la cuisine. Mais quand tu auras soigné cette fille, elle te préparera un petit souper. Le dérangement vaut bien ça. Ah,
que tu es sotte, ma pauvre amie. Si tu savais...
Tu as dit tout ça est fini, tout ça est loin de moi. C'est donc qu'il y a eu quelque chose entre vous. Quoi? J'ai le droit de savoir. Je ne te reproche rien, mais je veux savoir.
Mais je parlais en général. Ça ne se rapportait pas à Maria Cross. Voyons, Lucie, tu ne m'as pas regardée.
Ah oui. Oui, je tiens enfin la clé de ces derniers mois. Tout s'explique, tout me paraît clair. Paul, ne va pas chez cette femme. Je ne t'ai rien demandé, jamais. Enfin, tu peux bien m'accorder ça.
Mais cela ne dépend pas de moi. Je me dois à un client malade. Peut-être près de mourir, une chute sur la tête. Ce peut être la mort. Si tu m'empêches de sortir, tu seras responsable de cette mort.
Mais c'est peut-être un coup monté. Ils se sont donné le mot.
Eh bien, Marot.
Elle est tombée de la fenêtre. Ce ne peut être qu'un accident. Elle n'aurait pas choisi pour se détruire la fenêtre du salon, à l'entresol.
Elle délire?
Oui, le délire. Elle se plaint de la tête, ne se souvient de rien.
Bon, allez chercher de la glace au village. Vite, vous en trouverez à l'auberge ou chez le boucher. Prenez aussi chez le pharmacien du sirop de bromure. Moi, je cours chez elle. Je passerai par le bois de berge. Ce sera moins long que si je faisais atteler.
Vous n'aurez pas besoin de lanterne. Avec ce clair de lune, on y voit comme en plein jour.
Paul! Paul!
Qu'est-ce qu'il y a?
Tiens. Prends ce pain et ce chocolat, tu en auras besoin.
Merci, Lucie.
Qu'est-il arrivé, docteur? Qu'est-ce qu'il y a eu?
Ça vous fait mal, là?
Oui, là.
Et là?
Non.
Et là?
Oui. Oh, je souffre, je souffre. Je veux une nouvelle compresse.
S'il vous plaît, donnez-lui une nouvelle compresse.
Bien, docteur.
Calmez-vous, Maria, calmez-vous.
Voici la glace, monsieur, avec le sirop.
Bien, merci. Passez-la moi avec la calotte de caoutchouc, là, sur la table. Merci. Restez calme, Maria. Cela va vous faire du bien.
Là.
Non, non, je veux une compresse chaude, une compresse chaude. Dépêchez-vous donc un peu, il vous faut une heure pour exécuter mes ordres.
Allons, allons, vous l'aurez, votre compresse chaude, vous l'aurez. Voilà, merci Justine. Ne bougez pas. Là, là. Reposez-vous maintenant. Merci beaucoup, Marou. Je crois que vous pouvez aller vous reposer un moment. Et vous aussi, Justine, je vais rester avec elle. Je vous appellerai lorsque je repartirai.
Bien, monsieur. Merci, docteur. Merci.
Maria, Maria, calmez-vous, Maria, calmez-vous. Je suis là.
Mais docteur, non, je n'ai pas voulu mourir. Je vous défends de croire que j'en ai eu le désir. Je ne me rappelle rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas voulu mourir, mais dormir. Si quelqu'un s'est vanté de m'avoir réduite à mourir, je vous défends de le croire. Vous me comprenez? Je vous l'interdis.
Oui, mon ami, oui, je vous jure que personne ne s'est vanté. Soulevez-vous un peu. Avalez ça, c'est du bromure. Ça vous calmera.
Je n'ai pas besoin d'être calmée. Je souffre, mais je suis calme. Éloignée dans la lumière. Oh! Tant pis, j'ai taché le drap. Je renverserai encore votre drogue si ça me plaît.
Oui, ce n'est rien, ce n'est rien. Souffrez-vous moins, Maria.
C'est puisque je vous dis que je souffre au-delà de tout. Mais ce n'est pas seulement ma blessure, non. Quelle autre issue que le sommeil, docteur, je vous le demande. Tout me paraît si clair maintenant. Je comprends ce que je ne comprenais pas. Ces êtres que nous croyons aimer, ces amours misérablement finis. Oh, je connais la vérité maintenant. Non pas des amours, mais un seul amour en nous. Et nous ramassons au hasard des rencontres, au hasard des yeux et des bouches, ce qui pourrait y correspondre, peut-être. Oh, quelle folie d'espérer atteindre cet objet. Et songez qu'il n'est aucune autre route entre nous et les êtres que toucher, qu'étreindre la volupté, enfin.
Maria, Maria, assez, je vous en prie, reposez-vous.
Nous connaissons bien pourtant à quoi mène ce chemin et pourquoi il fut tracé. Pour continuer l'espèce, comme vous dites, docteur. Et pour cela seulement. Mais oui, comprenez-vous, nous empruntons la seule route possible, mais qui n'a pas été frayée vers ce que nous cherchons.
Oui, oui, ne bougez pas. Voici une nouvelle compresse. Là.
Docteur, il faudrait aimer le plaisir. Mon ami Gabi disait, mais non, ma petite Maria, c'est la seule chose au monde qui ne m'ait jamais déçue, figurez-vous. Hélas, le plaisir n'est pas à la portée de tous. Moi, je ne suis pas à la mesure du plaisir. Lui seul, pourtant, fait oublier l'objet que nous cherchons, et il devient cet objet même. Abêtissez-vous, c'est facile à dire.
Tenez, prenez cela, Maria.
Non, non.
Si, si, maintenant.
Non, pas de bromure. Je suis bien libre de le jeter sur mon lit, ce n'est pas vous qui m'en empêcherez. Oh. Et toujours, entre ceux que j'ai voulu posséder et moi, s'étendait ce pays fétide, ce marécage, cette boue. Ils ne comprenaient pas. Ils croyaient que c'était pour que nous nous enlisions ensemble que je les avais appelés.
Allons donc comme les autres, comme les autres. Vous ne cherchez vous aussi que ça, le plaisir. Mais tous, tous, nous ne cherchons que ça. Oh. Allez, maintenant, buvez, Maria.
Non.
Attention, attention, soulevez-vous un peu. Là, voilà.
Oui. Moi aussi. Moi aussi. Mais, vous savez, docteur, quand on voit l'éclair et qu'on entend la foudre dans la même seconde, eh bien, en moi, le plaisir et le dégoût se confondent, comme l'éclair et la foudre. Ils me frappent ensemble. Il n'y a pas d'intervalle entre le plaisir et le dégoût. Un être que nous pourrions atteindre, posséder, mais non dans la chair, par qui nous serions possédés.
Son pouls est calme. Elle dort comme un enfant. Le sang monte à ses joues et les éclaire. Bonheur de la chair. Et j'aurais pu être l'homme qui s'étend chaque soir sa journée finie auprès de cette femme. Ce ne serait plus cette femme. Elle eût été mère plusieurs fois. Tout son corps porterait les traces de ce qui a servi et de ce qui s'use tous les jours à des besognes basses. Plus de désirs, des habitudes sales. C'est la vie qui dissout l'amour.
Le docteur s'est rassis, épuisé, craignant de ne pouvoir marcher jusqu'à sa maison, se persuadant que c'est la faim qui l'épuise. Pourtant, cette angoisse physique le délivre de sa tristesse amoureuse. Mais déjà, sans que rien ne l'en avertisse, si ce n'est le petit jour qui blanchit la croisée de la chambre, la destinée de Maria Cross, imperceptiblement, se détache de la sienne. Les amarres sont rompues, les ancres levées. Le vaisseau bouge, et l'on ne sait pas encore qu'il bouge. Bientôt, ce ne sera plus qu'une tache sur la mer. Le docteur songe avec accablement aux objets de sa tendresse qui, depuis son adolescence, ont presque tous disparu d'un coup, emportés par une autre passion ou qui, plus humblement, ont quitté la ville, sa ville. Demain, il sait qu'il sera étendu, malade, sa femme assise à son chevet, et que Robinson, sans doute, surveillera la convalescence de Maria Cross, qu'il enverra aux eaux de Luchon parce que son meilleur ami y est installé et qu'il faut l'aider à se faire une clientèle. Puis, à l'automne, peut-être, M. Larousselle, que ses affaires appellent souvent à Paris, décidera de louer près du bois un appartement et proposera à Maria d'y vivre. Puisqu'elle aimerait mieux mourir, dira-t-elle, plutôt que de rentrer dans la maison de Talence, au tapis déchiré, au rideau plein de trous, dans cet affreux Bordeaux. Avec une grande lassitude, tandis qu'il contemple le visage pacifié de Maria endormie, le docteur comprend enfin que ce n'est pas la mort qui nous prend ceux que nous aimons, mais que c'est la vie seule qui dissout l'amour.
Adieu, Maria. Adieu.
Monsieur le docteur m'a appelé.
Oui, Justine, excusez-moi, je suis très fatiguée. Je vais rentrer chez moi. Elle dort, elle s'est calmée. Donnez-lui encore une cuillère de bromure si elle s'agite. Le docteur Robinson s'occupera d'elle à partir de demain. Bonsoir, Justine.
Bonsoir, docteur.
Paul, je suis venue te chercher. Je t'attendais.
Lucie, tu es venue.
Tu dois être fatiguée. Mais nous sommes vite arrivés avec la voiture.
Lucie. Lucie.
La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter Le désert de l'amour, adaptation radiophonique par Michel Dominique du roman de François Mauriac de l'Académie française. Hubert Prélier interprétait le rôle du docteur Courrège. Henriette Barrault de la Comédie française, celui de Lucie. Gabriel Fontan, Madame Courrège. Jean Muselli, Raymond. Marcel Tassancourt, Madeleine Basque. Daniel Lecourtois, Gaston Basque, Roger Coggio, Papillon, Jacqueline Larousselle et Catherine Sellers, Maria. Avec le concours de Pierrette Castan, Marie-Jeanne Gardien, Dominique Davray, Ginette Franck, Daniel Mandaille, Jacques Grippel, Jacques Gezi, les petites Brigitte Morisot, Nadine Sonnet, Françoise Anisimov et Jean-Roger Cossimon, le narrateur. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Noël Barbet, assistante de production Olga Lancement, réalisation Albert Riera.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 6 mars 1957. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.